Chers frères et sœurs, quelle est la devise du jubilé de la miséricorde? Vous la connaissez certainement par cœur, de cette année de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme le Père. Alors, dans cette devise, on propose de vivre la miséricorde à l'exemple du Père. Alors, on trouve cette devise, elle est tirée de Saint Luc au chapitre 6. Et je vous cite, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. » Et donc, cet appel pour l'année de la miséricorde, c'est d'entrer en quelque sorte en harmonie avec le cœur de Dieu, le cœur riche en miséricorde. Alors, l'évangile du Fils prodigue, nous avons coutume de l'entendre lors des célébrations pénitentielles. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, nous nous identifions plus volontiers au Fils prodigue. Mais ce n'est pas l'angle original, l'angle d'attaque original, si je peux m'exprimer ainsi, de cette parabole. L'angle d'attaque, c'est à propos du Fils aîné. Ce n'est pas le fils prodigue qui est la lumière. Alors nous, on met la lumière sur le fils prodigue et puis il y a des œuvres magnifiques pour nous. Mais c'est le phare, le spot est dirigé plutôt vers le fils aîné. Quelle va être son attitude? Et lors de cette année de la miséricorde, bien sûr, nous sommes appelés à bénéficier de la miséricorde de Dieu, bien sûr. Vous pouvez aller faire vos... On ne peut que vous encourager à passer la porte sainte, et voilà, ça fait partie de l'année de la miséricorde. Mais le cœur de l'année de la miséricorde, c'est d'abord de faire miséricorde. Miséricordieux comme le Père. Voilà, alors donc c'est plutôt dans cette perspective que je vais essayer de commenter ce passage d'évangile. Alors je vais le faire en deux parties. De voir d'abord qu'est-ce qui est premier. Est-ce que c'est de réparer le mal, quand on a fait le mal, ou est-ce que c'est de renouer la relation? Et puis après, de voir, mais finalement, puisque c'est quand même de renouer la relation, finalement, est-ce que ce n'est pas un peu minimiser le mal? Alors que... Voilà. Alors d'abord, qu'est-ce qui est premier? Alors, s'il y a bien un point commun entre les trois paraboles que nous avons lues, c'est la joie. La joie des retrouvailles, qui fait contraste avec l'attitude des pharisiens qui récriminent contre Jésus. « Ah, cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux, hein, et les publicains et les pécheurs, parce que les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. » Alors donc, il y a ce contraste entre la joie et Jésus... On pourrait dire, insiste un peu lourdement sur cette joie des retrouvailles, comme par contraste avec cette attitude chagrine, on pourrait dire, des pharisiens. Et à travers ça, donc, on voit bien que ce qui est premier pour Dieu, c'est de retrouver ce qui est perdu, c'est de renouer la relation. Alors, bien sûr, le mal aura besoin d'être réparé d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas ce qui est premier. Et alors, je pense que ça, c'est une première chose importante. C'est lorsqu'un mal a été commis, alors il y a deux manières de regarder. Ça, d'abord, de regarder surtout le mal qui a été commis et d'exiger la réparation de ce mal. Et puis, on ne bouge pas tant qu'il n'y a pas quelque chose qui a avancé. Ou alors, de pas regarder le mal, mais regarder plutôt le coupable. Et s'il regrette le mal qu'il a fait, lui donner une nouvelle chance. Mais alors, la réparation du mal ne vient pas comme un préalable, mais elle vient plutôt comme une conséquence. D'ailleurs, nous avions en deuxième lecture Saint Paul qui rend grâce. « Ah, moi je suis le premier des pécheurs, mais il m'a été miséricorde, afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus, montre toute sa patience. » Et alors, comme Saint Paul, pour répondre à cette miséricorde, qui lui a été faite, alors du coup c'est donné deux fois plus pour témoigner de Dieu, pour rejoindre ceux qui sont perdus. Alors les pharisiens seraient d'accord, peut-être pour se réjouir, mais seulement au terme du processus, quand toute la dette est remise. Jésus et Dieu se réjouit dès que la personne se remet dans la bonne direction. Alors on voit que le frère aîné, apparemment, n'est pas tellement sensible aux relations, apparemment. Mais comme le remarque très finement Benoît XVI, en fait, tous les deux, que ce soit le fils prodigue ou le frère aîné, ont une soif de relation. Parce que, si vous avez remarqué, le fils prodigue, bon, il va dépenser toute sa fortune, et à un certain moment, il est dit, il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Il n'avait qu'à se servir, on ne lui aurait pas défendu. Mais le problème, c'est qu'il aurait voulu qu'on lui donne. Et quelque part, ce qui était important pour lui, c'est aussi cette relation avec quelqu'un. Ce n'est pas uniquement d'avoir à manger, mais c'est une relation. Et le fils aîné, quelque part, il a soif aussi de cette relation, même si c'est un peu compliqué pour lui, mais sa revendication, c'est « Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec des amis ». Ce n'est pas seulement le chevreau, c'est de festoyer avec des amis, c'est d'être avec d'autres. Donc, pour le Seigneur, en tout cas, ce qui est premier, c'est vraiment de renouer ce lien, de renouer cette relation. Et oui, c'est vraiment ce qui est... Ce n'est pas d'abord de réparer le mal, c'est d'abord de renouer la relation. Alors, la deuxième partie, est-ce que finalement, le mal, on efface, et puis comme une ardoise, et puis on fait comme si de rien n'était ? Non. Dans la parole de Dieu, on insiste à diverses reprises, justement, que Dieu ne veut pas nous déresponsabiliser en disant « c'est pas grave, mon coco », et puis on repart comme si de rien n'était. Non. D'ailleurs, Benoît XVI, quand il avait écrit son encyclique sur l'espérance, présentait le jugement comme un lieu d'espérance. Comment ça ? Parce que quelquefois, on voit sur les façades des cathédrales le jugement, mais ça nous fait un peu peur. On voit la balance, et puis de quel côté on va être ? Du côté de ceux qui se contorsionnent et qui souffrent, ou du côté de ceux qui vont être admis au ciel. Mais en fait, non, le jugement est d'abord une source d'espérance, parce que ça veut dire que le mal n'est pas équivalent au bien. Ce n'est pas la même chose d'être Hitler ou d'être Mère Teresa, non, ce n'est pas la même chose. Donc, si l'accueil et la joie de Dieu des retrouvailles ne veut pas non plus dire que le mal n'est... C'est rien, ce n'est pas grave. Si, ça peut être très grave. Mais alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le fils aîné a manqué un épisode. Il a manqué un épisode parce que lui, il reste omnubilé par le mal que son frère a fait. Mais il n'a pas vu, pour l'instant, le chemin intérieur qu'a fait son frère. Il ne l'a pas rencontré et puis il n'a pas envie de le rencontrer. Donc, tant qu'il ne le rencontre pas, en plus, il aura du mal à voir un peu le chemin intérieur qu'il a pu faire. Et on voit bien ce chemin que le jeune frère a accompli. Alors, la souffrance peut-être l'a aidé aussi à accomplir ce chemin. La faim l'a aidé à accomplir ce chemin. Mais au début, quand il rentre vers son père, c'est pour avoir à manger. En tout cas, consciemment, c'est d'abord pour ça qu'il revient vers son père, même si inconsciemment, il a besoin de plus. Et alors, mais il ne vient pas dans une attitude revendicatrice qu'au moment où il a demandé le partage des biens. « Allez, tu me donnes la part de fortune qui me revient, et puis voilà. » Ça, normalement, on reçoit son héritage quand l'autre est mort. Ça veut dire que dans son esprit, son père était mort. Il n'avait pas d'importance pour lui, il était comme mort. Mais là, non. Il se « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et alors, donc, ce chemin intérieur, c'est ce que le Seigneur attend de nous aussi pour nous faire miséricorde. Alors bien sûr, il suscite ce chemin intérieur aussi, parce que la grâce nous accompagne toujours. C'est jamais nous qui faisons le premier pas, d'une certaine manière. C'est toujours la grâce de Dieu en nous. Mais en même temps, s'il n'y a pas ce chemin intérieur, rien n'est possible. Donc, Dieu n'enlève pas la responsabilité, et ce jeune fils a pris conscience de sa responsabilité. Ce qui intéresse Dieu, c'est de nous voir dans une bonne direction, dans une bonne dynamique. Comme on le dit souvent dans la parole de Dieu, par exemple dans Saint Jean, hein, Dieu a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Hein, le but, l'objectif, c'est clair, c'est de nous sauver, c'est pas de nous juger et puis de nous mettre en enfer ou au ciel, c'est pas ça. Et on voit ce « il fallait festoyer, se réjouir », c'est une nécessité qu'on retrouve à diverses reprises dans l'Évangile, cette nécessité qui a conduit Jésus à la croix aussi. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Mais c'est les deux faces de cette même nécessité, parce que Dieu veut nous sauver. C'est son obsession, si vous me permettez l'expression. Alors, encore une fois, ce qui intéresse Dieu, c'est de voir un peu dans quelle dynamique nous nous trouvons, dans quelle direction nous nous dirigeons. Comme le disait le prophète Ézéchiel, c'est Dieu qui s'exprime, « Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive ?» Alors, je ne vais pas relire le passage, mais on voit bien, ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on soit dans la bonne direction. À partir du moment où on est dans la bonne direction, tous les espoirs sont permis. Et de fait, on voit que ça minimise pas le mal, mais la réparation n'est pas au départ. Elle vient après, d'une manière ou d'une autre, mais pas au point de départ. Et on le voit que cette confiance de Dieu, Dieu nous redonne sa confiance, comme il l'a redonnée à Saint Paul, où il m'a été fait miséricorde. Alors il me semble qu'il parle de la miséricorde, de la confiance. Oui, le Seigneur Jésus, notre Seigneur, je suis plein de gratitude, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère. Moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Alors Dieu, donc, quand il voit cette attitude, ce regret qui habite le cœur de l'homme, Dieu est tout disposé à lui faire confiance, à lui redonner toute sa confiance. Alors, dans la parabole, donc, je reviens un tout petit peu pour conclure, dans la parabole du fils prodigue, puisqu'on l'appelle comme ça, même si ce n'est pas le centre, il me semble, de la parabole, parce que justement, le regard porte davantage sur le frère aîné, et la conclusion de la parabole, on ne la connaît pas vraiment. Est-ce que le fils aîné est entré ou non dans la salle des noces, dans la salle du festin? Mais parce que la conclusion de la parabole n'est pas dans la parabole. La conclusion, elle est dans la réalité, elle est pour nous, elle est pour les pharisiens d'abord, immédiatement, mais aussi pour nous. Est-ce que toi, tu es prêt à rentrer et du coup à épouser cette miséricorde de Dieu, à entrer dans cette attitude du cœur de Dieu? Donc là, on sort de la parabole et on atterrit dans la réalité, si vous voulez. Et alors, comme vous connaissez le pape François un petit peu dans sa manière de nous provoquer dans la réalité pour ne pas rester uniquement dans des belles idées, et puis voilà, voilà ce qu'il disait à propos de cet évangile. Alors ça va être l'ultime conclusion, on pourrait dire. Que chacun de nous pense à une personne avec laquelle nous ne nous entendons pas. Donc vous imaginez, avec laquelle nous nous sommes disputés, que nous n'aimons pas beaucoup. Pensons à cette personne en silence à présent. Prions pour cette personne et devenons miséricordieux avec cette personne. miséricordieux comme le Père.